10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et bienvenue dans l'émission Et puis c'est tout, l'émission qui chaque mois traite des épilepsies pour comprendre ce que sont les épilepsies, comprendre aussi comment vivent les personnes qui souffrent de ce trouble et ce matin aussi plus particulièrement ceux qui accompagnent les personnes souffrant du trouble, d'un trouble d'épilepsie tout simplement. Aujourd'hui on va donc parler des aidants.
10h, 11h sur RCN Et puis c'est tout.
En direct sur RCN jusqu'à 11h avec à mes côtés mes acolytes habituels. Bonjour Aurore.
Bonjour Thomas.
Et bonjour Audrey.
Bonjour Thomas.
Vous êtes toutes les deux, comment je veux dire, animatrices, coordinatrices.
Oui, un peu tout ça,
on va dire. Des équipes relais handicap rare.
Oui, voilà. Et puis animatrices surtout de la COP épilepsie et handicap Nord-Est.
Voilà, avec qui on a le plaisir d'animer chaque mois cette émission et je suis ravi de vous retrouver. Et puis également à nos côtés ce matin, nous avons Camille Lemaire. Bonjour Camille.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la Maison des Aidants ?
Oui, tout à fait.
Et vous nous expliquerez dans quelques instants ce que c'est cette Maison des Aidants. On la connaît un petit peu à Nancy, mais c'est bien qu'on en reparle. C'est un lieu, je crois, très important pour les gens qui viennent vous y rencontrer. Et justement, parmi des gens qui peuvent ou sont peut-être déjà venus vous rencontrer, je vous présente Claire. Bonjour Claire.
Bonjour Thomas.
Vous êtes la maman de Pauline.
Oui.
Qui souffre des troubles de l'épilepsie.
Oui, oui.
Très bien. Et vous nous raconterez tout à l'heure un petit peu votre vie de maman, comment ça se passe avec votre fille, et puis un peu toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ou tout ce que vous avez pu mettre en place aussi pour essayer d'aiguiller aussi votre vie au quotidien. Je parle bien de vous cette fois-ci.
D'accord, merci.
Et avec Cathy également. Cathy, bonjour.
Bonjour.
Vous, votre fille s'appelle Elodie.
Oui, c'est
elle ça. Est d'ailleurs pas très loin de nous ce matin, oui. Avec sa sœur. Et donc, pareil, vous nous raconterez aussi vos parcours de vie et tout ce que vous mettez en place, oui, au quotidien pour essayer d'avoir la vie la plus proche d'une vie normale.
Mm-hmm.
On en parlera évidemment. Vous le savez, chaque mois, quand on démarre cette émission, la première des choses qu'on fait, on envoie nos animateurs de l'équipe Relais Handicap Rare et de la COP avec le micro dans la rue pour poser des questions. Et ce matin, vous avez posé quelles questions aux gens dans la rue à Nancy ?
Je démarre.
Première question.
Oui, tu vas ?
Allez, Audrey, Aurore.
Bon, allez, j'y vais.
Allez,
la première question, on s'était mis d'accord, pour quand on a préparé, on a demandé aux gens s'ils savaient ce que c'était qu'être aidant, proche aidant.
On va voir un peu ce qu'en pensent les gens dans la rue.
Aidant familial, c'est quelqu'un qui aide une personne qui est soit en mode handicap, de quelqu'un qui est handicap ou qui est en difficulté de la vie de tous les jours. Voilà, ou de maladie psychologique, maladie physique. Voilà, c'est ça pour moi, un aidant familial qui est là, qui peut être là soit tous les jours, soit plusieurs fois par semaine, ou soit 24 heures sur 24.
Ben, accompagner quelqu'un qui est en difficulté, n'est-ce pas ?
J'ai une cousine qui a de sa mère qui vient d'avoir 99 ans.
Ouais. Et elle nous a dit l'autre jour, mais je n'étais pas présente, je crois qu'elle reçoit une somme dérisoire, alors qu'elle assume tout. Tout.
Un aidant familial, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un proche, qui l'aide dans ses difficultés de la vie.
Quelqu'un qui apporte son aide, qui prend du temps pour s'occuper de ses proches, qui aide pour différentes choses, autant administratives que dans la vie de tous les jours.
En tant qu'aidant, je dois assumer absolument tout. Toutes les démarches, quand il faut se déplacer dans un lieu, que ce soit administratif ou même le quotidien, les courses, prendre des rendez-vous chez le médecin, il faut que je sois disponible pour les rendez-vous. Enfin, voilà. Il y a cette charge mentale aussi à avoir.
Voilà, on a entendu un peu la définition de ce qu'est un proche aidant. Je vais peut-être vous demander de réagir, vous notamment, Claire et Cathy. Vous vous reconnaissez dans la définition que donnent les gens de ce qu'est un proche aidant ?
Dans le sens où on est on est en difficulté aussi par rapport au travail avec des ruptures, des arrêts de travail. Pour moi, la JPP pendant plusieurs années.
La JPP, on va déjà dire ce que c'est.
L'allocation journalière de présence parentale.
Okay,
voilà.
Ouais.
Et avec aussi une baisse du temps de travail passant pour moi de 50 et maintenant 80%, et un travail de nuit à l'hôpital qui est évident. Par rapport à la prise en charge de la personne aidée, quoi, en tout cas. Mmh. Voilà.
Donc, oui, on entend bien que c'est vraiment votre quotidien, la vie de proche aidant.
Et une frustration de faire ce choix d'arrêter ou de travailler moins, qui n'est pas un choix foncièrement personnel.
On en reparlera tout à l'heure quand vous nous raconterez votre parcours, effectivement. Oui. Hein, tout ça, c'est important de l'entendre. Vous, de votre côté, Cathy, vous êtes reconnue dans ce que vous entendez.
C'est exactement la même chose de ce qu'elle a dit, oui, effectivement. Ouais. C'est très dur.
Et c'est vrai que les gens, on l'entend, hein, disent ça peut être aidé. Alors, on entendait la définition, là je me tourne vers vous Camille, mais ça peut être aidé tout le temps ou de temps en temps, ponctuellement ou vraiment 24 heures sur 24, c'est ça un proche aidant?
Oui, c'est ça. La définition qui a été donnée par la jeune fille dans le micro-trottoir, elle est tout à fait juste. Hein. C'est quelqu'un qui aide, qui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne d'une personne qui est en perte d'autonomie. Alors, qui est en perte d'autonomie...
C'est important ce que vous dites. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même une perte d'autonomie. Ça veut dire que ça concerne aussi bien, du coup, quelqu'un... On entendait des gens qui disaient... c'est des gens qui souffrent de handicap, par exemple. Mais on entendait aussi une dame qui parlait de sa maman qui a un certain âge et qui, aujourd'hui, a besoin d'être accompagnée.
Exactement. En fait, cette perte d'autonomie, elle peut être liée à l'âge. Alors, c'est quand même assez visible, mais elle peut être aussi liée à la maladie qui, des fois, est plus invisible. Oui. Là, on est sur le sujet de l'épilepsie, on est complètement dans le sujet. Mmh. Et aussi du handicap physique ou psychique. Le handicap psychique n'est pas aussi forcément quelque
pas
chose
toujours,
que l'on
ouais.
voit d'office. Voilà.
Donc, on reviendra tout à l'heure un peu hein, sur toutes ces notions, justement, de proche aidant. Audrey Aurore, des remarques par rapport au micro-trottoir?
Non, je trouve que comme à chaque fois on est, enfin oui, si, du coup une remarque, on est souvent surprise de finalement les personnes sont assez averties. Alors il peut y avoir des approximations, etc. Mais comme souvent on a des retours, on se dit en fait les gens savent un petit peu de quoi on parle. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est que ils ont les retours là de témoignages, c'était bien sur tous les domaines de la vie en fait qui peuvent être touchés.
On a entendu parler quotidien, les courses administratives par exemple, c'est ça. On reviendra évidemment sur tout ça. Et puis évidemment on l'entendait par vos témoignages Claire et Cathy sur ce que ça impacte aussi dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, mais ça ce sera effectivement je pense quelque chose qu'on détaillera tout à l'heure dans l'émission. La deuxième question que vous avez posée au cours de ce micro-trottoir, Aurore.
Alors on leur a demandé est-ce qu'il y a des différences pour vous quand on est aidant pour des personnes épileptiques par rapport à d'autres personnes?
Eh bien on va écouter les réponses maintenant.
Il y a des épilepsies qui sont très fortes, je vais dire ça comme ça, et d'autres épilepsies qui sont dans le quotidien, qui peuvent être gérables pour le patient ou pour la personne qui peut aussi travailler, qu'il n'y a pas de souci. Moi, je pense que c'est en fonction du degré de l'épilepsie par rapport à l'aidant familial.
Ma maman est épileptique, donc c'est un rôle très très important qui peut être très pesant. Puis c'est pour ça qu'il faut de l'aide pour les proches, parce qu'eux-mêmes du coup sont impactés dans leur quotidien, autant émotionnellement que dans leur temps puis l'organisation familiale.
Je pense que ça doit être très compliqué, parce que c'est quelque chose qui est très, très brutal, très violent pour l'accompagnant, enfin, pour la personne bien sûr qui est malade, mais certainement aussi pour l'accompagnant. Je pense que ça ne doit pas être très très facile. Il y a tellement de façons d'aider, il y a tellement de cas particuliers, mais je pense que l'épilepsie c'est quand même quelque chose qui est très 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 douloureux. Enfin, ça doit être très difficile à vivre.
Je pense qu'au niveau travail, ça doit être, s'ils sont obligés de s'en occuper pendant la nuit, ça ne doit pas être évident d'aller travailler le lendemain. Et les loisirs, je pense que ça limite certains loisirs.
Oui, ça peut impacter sur la vie professionnelle et non professionnelle, parce que les personnes doivent être attentives, parce que ces crises peuvent venir n'importe quand. Donc ça a vraiment un impact sur la vie, oui. Le souci, c'est que lorsque la personne est au travail, elle doit être à 100% dans le travail. Mais au fond d'elle, je pense que la personne, par rapport à la personne qui a une épilepsie, n'est pas concentrée vraiment à 100%. Parce qu'il y a toujours une part dans le cerveau qui, pour dire que... ce qui va se passer pour la personne épileptique.
En tant qu'aidant, c'est pas simple de partir au travail en sachant que la personne que tu accompagnes est seule à la maison et que tu guettes ton téléphone pour savoir si on t'appelle pas parce qu'il y a une crise qui a été faite. Enfin voilà, ça c'est, tu as ça dans la tête quand même la journée. En tout cas, les temps, les jours où la crise a été proche, tu repars pendant une semaine avec la boule au ventre en te demandant si ça va bien. Alors, on n'a plus l'esprit tranquille et qu'on est quand le téléphone sonne sur le qui-vive en disant quand la personne appelle et que c'est pas des horaires habituels, on décroche vite parce qu'on a peur qu'il soit blessé ou qu'il y ait effectivement une crise d'épilepsie un peu plus importante que les autres. Enfin, voilà.
Il y a beaucoup de choses qui reviennent dans ce micro-trottoir. On parle beaucoup du travail, effectivement. Hein. Vous en parliez tout à l'heure, Claire, effectivement. On sent que pour les gens, l'impact que ça a sur le travail est important. Et on entend aussi, enfin moi, ce que j'entends, c'est qu'on a l'impression que le fait qu'on parle d'aidant pour les personnes épileptiques, il y a ce truc, cette crainte de la survenue de la crise qui ajoute peut-être aussi à la difficulté de l'aidance. Qui veut réagir là-dessus ? Cathy ?
Bah effectivement, quand c'est vrai que quand on est au travail, on se dit tout le temps, dans notre tête, il y a ce petit coin là qui dit est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle fait une crise, est-ce qu'elle va faire une crise. On n'est jamais tranquille. On n'est jamais tranquille.
Oui, c'est-à-dire
qu'effectivement,
il y a vraiment ce truc du à tout moment, ça peut basculer.
Ah mais bien sûr, bien sûr. Mmh. Et comme aussi quelqu'un qui disait là, le micro-trottoir, la peur qu'elle se blesse. Ça, c'est vraiment, oui, au fond de nous, je pense que toutes les mamans ont cette peur, effectivement, oui.
Camille, vous pensez que les danses, il y a une intensité en fonction peut-être du degré de l'épilepsie ou du trouble dont souffre la personne qu'on accompagne ?
Alors, ça va être un petit peu une réponse de Normand, mais j'aurais tendance à dire oui et non. C'est-à-dire que forcément, dans les faits, lorsque on a un proche qui fait des crises régulières, importantes, on est forcément plus impacté dans le quotidien. On va devoir se rendre plus disponible et mettre en place plus de choses pour pallier un petit peu à ça que quelqu'un qui a un proche qui a des crises moins régulières avec moins de conséquences. Néanmoins, sur les danses, moi, c'est ce que je dis toujours de manière générale aux aidants qu'on reçoit à la maison des aidants, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ces faits-là. C'est-à-dire qu'on peut être aidant moins de temps que son voisin ou que son ami, et en même temps que ça puisse avoir un impact beaucoup plus fort au niveau moral, au niveau familial, au niveau psychique, psychologique, parce que chacun vit sa situation comme il peut la vivre, avec aussi les relais qu'il a autour de lui ou non. Voilà un petit peu...
On entend un tout petit peu parler d'ailleurs de vie sociale, c'est très peu cité, on parle beaucoup plus du travail quand on écoute les gens, mais il y a quand même un moment donné, on entend parler du lien social qui peut se déliter ou parfois être difficile.
Oui, alors, en tout cas, de ce que me disent les aidants et de ce que je peux constater sur le lien social, c'est qu'il y a un fait, c'est-à-dire que forcément, comme l'aidant se prend du temps, beaucoup d'autres temps plus personnels sont réduits au profit de cette aidance. Et j'ai le sentiment aussi que les personnes se mettent en retrait de cette vie sociale, peut-être aussi un petit peu par culpabilité. C'est-à-dire, je ne me vois pas aller prendre du temps pour moi, tout en sachant que c'est du temps que je ne vais pas passer avec mon proche.
On en reparlera dans quelques minutes, je vous propose. Là, vous faites presque une transition vers le deuxième temps, le temps des témoignages et un certain nombre de choses que j'ai pu aussi, moi, entendre. Et c'est important qu'on en parle. Je vous propose peut-être qu'on fasse d'abord une première pause musicale et qu'on écoute Shakira. Je crois que ça, c'est votre choix, Cathy.
Oui, c'est pour Elodie. Elodie qui fête son anniversaire demain, c'est 22 ans.
Elle aura 22 ans.
Donc elle adore
demain.
Elle adore cette chanson.
Eh bien, on va l'écouter, puis on va peut-être la faire rentrer dans le studio le temps de cette chanson.
Mais il n'y a pas de souci.
Alors on écoute Shakira maintenant sur RCN dans Et puis c'est tout à 10h13. On revient dans un instant. Je rappelle que ce matin, on parle de la place des aidants.
Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. This land for Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa, anawa ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. This land for Africa.
I'm well on my journey, biggie biggie mama, one A to Z. Party so sell on my journey, biggie biggie mama, from east to west. Party waka waka my eh eh, waka waka my eh eh.
Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et dans ce rendez-vous mensuel où nous parlons des épilepsies, ce matin on parle du sujet des aidants. Aujourd'hui en France, 4 millions de salariés sont des aidants familiaux ou aidants proches dépendants. Ça représente à peu près 13% du nombre de salariés global en France. Camille Lemaire, vous êtes donc responsable de la Maison des aidants à Nancy. Peut-être dire un mot déjà sur cette structure. Qu'est-ce que la Maison des aidants pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors, la Maison des aidants de Nancy, elle est toute jeune. Elle a été créée le 6 octobre 2022 à l'initiative d'une association qui s'appelle l'UDAF, l'Union départementale des associations familiale de Meurthe-et-Moselle. Et en fait, le but de la Maison des aidants, c'est d'accueillir tout aidant, quelle que soit sa situation, donc salarié, retraité, jeune aidant, et surtout quelle que soit la dépendance ou le trouble de son proche, donc qui peut être lié au grand âge, à la maladie, au handicap physique ou psychique, et un petit peu à la marge, on a parfois des aidants de personnes qui souffrent d'addiction.
Voilà. Alors, la Maison des aidants, donc on l'entend, c'est un lieu où finalement on vient faire quoi ? On vient se... être accompagné, on vient passer un moment aussi pour évacuer, c'est quoi le principe ?
Alors, on vient déjà parce que souvent, on nous a dit qu'il fallait venir parce qu'on était aidant ou parce qu'on s'identifie comme étant aidant et qu'on pense que ça peut être un soutien. Donc effectivement, l'objectif, nous, donc on est une équipe de travailleurs sociaux avec un juriste, on est trois sur l'accompagnement des aidants. La première chose, c'est qu'on va accueillir et écouter, parce que souvent, ce que nous disent les aidants, c'est qu'on demande beaucoup comment va le proche qui est aidé, mais on ne pose pas beaucoup la question de savoir comment va l'aidant. Et il a souvent beaucoup de choses à nous dire, donc on le reçoit au cours d'un entretien où on prend vraiment le temps d'évaluer avec lui la situation, comment il est aidé ou non. Est-ce qu'il a des relais et surtout comment lui il évalue son épuisement aujourd'hui et les conséquences aussi sur sa santé, sa vie sociale, sur sa vie professionnelle, etc. Et puis une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a fait le bilan, on va passer beaucoup de temps à donner des informations parce qu'on se rend compte que les aidants n'ont pas du tout d'informations sur des aides qui pourraient leur être profitables, ou alors quand ils ont les informations, la connaissance est partielle. On ne sait pas où trouver le dossier, à qui faire la demande, à qui s'adresser, comment on fait quand on a un souci, etc. Donc nous, l'idée, ça va être de pouvoir regrouper tout ça, de donner cette information et de dire, attendez, a priori, on va quand même trouver quelque chose qui puisse vous aider ou vous soulager. Voilà, donc ça, c'est vraiment le volet accompagnement individuel, si je peux dire. On est soutenu, on a France Alzheimer 54 qui vient aussi faire des permanences plutôt sur les maladies neuroévolutives. On a également le département avec le service territorial autonomie, les animatrices qui viennent en permanence aussi recevoir les aidants pour les questions administratives liées à l'accès aux droits. grand âge et handicap, avec donc aussi une psychologue, Claire Guiton, du département, qui anime un groupe de parole pour tous les aidants. Et nous avons aussi au sein de la Maison des aidants le centre de prévention de l'Agir Carco, avec un médecin et une psychologue qui reçoivent alors à la fois les ressortissants du régime des caisses de retraite complémentaire du privé, pour bilan de santé et consultation de soutien psychologique. L'intérêt, c'est que c'est encore une fois, on ne va pas chez le médecin, on ne va pas en milieu hospitalier. Mmh. Tout est regroupé à la Maison des aidants. On gagne aussi du temps. On raccourcit un peu.
Oui, c'est ça, le chemin qu'on peut avoir à parcourir pour trouver un peu un équilibre aussi. Je vais revenir sur deux, trois choses que vous nous avez dites. Vous nous parliez tout à l'heure du besoin d'écoute. On se rend compte aujourd'hui que globalement, les aidants sont à un moment donné concernés par la dépression. Par exemple, j'avais des chiffres que je voudrais vous retrouver, mais que globalement, on a à peu près 12% des aidants qui vont suivre des psychothérapies ou être traités par antidépresseurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est aidant soi-même, on a besoin d'être aidé.
Bien sûr. Et puis, je pense que ça dit beaucoup aussi de l'isolement des aidants. On peut être tout à fait intégré dans une vie professionnelle ou une vie sociale, mais faire le choix de pas en parler pour plein de raisons, par pudeur, parce que on a beaucoup ces discours-là. J'invite mes amis, j'ai pas envie de les embêter avec ça. On est censé passer un bon moment, etc. Donc la pudeur, le fait qu'on ne souhaite pas déranger, le fait aussi qu'on considère que ça relève du domaine du privé et que forcément, quand on parle de sa situation, on parle aussi de son proche, donc on parle de l'état de son proche. C'est des choses qui sont intimes aussi, qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler comme ça. Donc ça dit beaucoup, oui, de l'isolement, de l'épuisement.
On y reviendra, je pense, tout à l'heure avec les témoignages de Claire et Cathy, effectivement, sur cette notion d'isolement qu'on peut ressentir et sur, finalement, la responsabilité. Un aidant, c'est quelqu'un qui vit au quotidien et 24 heures sur 24 avec ce job, j'allais dire, qui est un job un peu implicite.
Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en hypervigilance constamment. C'est ça.
Ouais. Et alors, vous disiez à la Maison des aidants, on peut aussi trouver des conseils et de l'accompagnement, puisqu'il existe des dispositifs aussi un petit peu qui permettent, je vais dire, d'essayer de faciliter un peu la vie des aidants. Je pense notamment aux congés proches aidants, par exemple. Il y a des choses comme ça sur lesquelles vous accompagnez aussi à prendre connaissance.
Oui, tout à fait. Ça fait partie, on va dire, des informations qu'on donne régulièrement, parce qu'on a des situations où on a des aidants qui, par méconnaissance, parfois n'ont pas le choix au pied de solliciter un arrêt maladie auprès de leur médecin parce qu'il faut que voilà ils puissent se rendre disponibles rapidement. Il y a des choses qui existent, le congé de proche aidant, donc qui va concerner un aidant s'occupant d'une personne en situation de dépendance adulte selon certains critères qui sont un petit peu variés. Donc là on va pas les détailler, mais vous pouvez s'il y a besoin vous renseigner auprès de la Maison des aidants. Donc le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale qui va plutôt concerner un aidant qui s'occupe d'un proche dont le pronostic vital est engagé. Donc dans le cadre de pathologies de santé. Et puis le congé de présence parentale qui va concerner un aidant d'un enfant entre guillemets de moins de 20 ans en situation de handicap ou de maladie. Et puis au-delà de ça, il y a les droits à la retraite. Hein. Tous les aidants ne savent pas que quand on s'occupe d'un proche on peut cotiser l'assurance vieillesse aidant vous permet de cotiser aussi, d'avoir des points, des trimestres sur la retraite. Il y a aussi le droit au répit qui a été initié en 2015 par la loi ASV d'adaptation de la société au vieillissement qui permet aux aidants de prendre du temps pour eux, d'avoir du temps libre, de se dégager du temps libre, de profiter de ces jours de répit, etc. Donc ça passe par des aides financières qu'on peut mobiliser dans ce cadre-là. Il y a aussi la protection juridique. Alors nous, à la Maison des aidants, on a notre juriste qui renseigne sur ces questions, mais lorsque la personne aidée a besoin d'être représentée ou ne peut plus se positionner sur des actes qui impliquent une signature ou une décision importante, donc tout ça, c'est des choses qui viennent alléger le quotidien d'un aidant. Et puis à la maison des aidants aussi, on parlait tout à l'heure d'isolement, on a une programmation d'activités trimestrielles qu'on appelle de répit et dont le but, alors j'insiste toujours en disant que c'est pas de l'occupationnel, il y a des professionnels qui sont psychologues, qui sont nutritionnistes, qui sont art thérapeutes, sophrologues, qui viennent donc proposer des activités dans le cadre de programmes de prévention santé, de sorties culturelles, voilà un petit peu tout ça. Donc le but, c'est aussi de créer du lien entre les aidants, du partage d'expérience et du soutien aussi.
La première fois que je vous ai rencontré, Camille, vous m'aviez sorti un témoignage qui m'avait beaucoup touché, que je répète souvent, que j'ai déjà répété à cette antenne. C'est qu'à la maison des aidants, une des premières dames, maman que vous avez reçue, je crois, vous lui avez juste proposé un café.
Oui.
Et elle s'est effondrée.
Oui, c'est ça. Alors oui, effectivement, donc c'était une maman d'un petit garçon autiste, donc une maman qui travaille à temps plein et qui était complètement démunie parce que il y a beaucoup d'attentes dans les prises en charge, surtout dans le cadre des troubles du spectre autistique, mais pas que, et qui était épuisée, et donc je l'invite à s'asseoir et je lui demande si elle souhaite un café, et en fait là oui, elle s'est littéralement effondrée, et donc elle me dit: mais en fait, moi, on me propose jamais ça, on me demande jamais comment je vais, on prend jamais 5 minutes pour prendre soin de moi. Et donc, en fait, alors ça, c'est pour l'histoire, hein, on a équipé à la maison des aidants les salles d'entretien de boîtes de mouchoirs, parce qu'en fait, vraiment, quasiment une fois sur deux ou une fois sur trois, ce sont des entretiens qui sont très, très chargés émotionnellement.
On l'avait constaté aussi ici avec une maman qui était venue sur la première émission et voilà, dont que j'embrasse d'ailleurs, hein, Marie-Agnès, si elle se reconnaît, si elle nous écoute, je lui fais des très gros bisous ce matin. Je vais me tourner vers vous, Claire et Cathy. Alors vous êtes toutes les deux proches aidantes. Et c'est vrai que la première question qu'on a envie de vous poser, c'est vous, comment vous allez? C'est une question qu'on oublie souvent de poser à des proches aidants.
C'est des hauts et des grands bas. La difficulté à pouvoir, là je me remets seulement au sport, alors refaire quelque chose pour soi, se donner l'autorisation de le faire aussi, c'est pas évident, hein, quand on est à côté de quelqu'un qu'on doit aider. En plus le travail, les nuits, la prise en charge aussi administrative qui est très très lourde à gérer aussi, devoir se dépatouiller, trouver les infos qu'on ne sait pas forcément aussi.
Donc c'est votre fille, hein, qui s'appelle Pauline, qui donc souffre de troubles de l'épilepsie.
Oui, Pauline a 22 mois, eu une tumeur cérébrale et du coup, c'est les séquelles de la chimio qui ont entraîné une épilepsie pharmacorésistante à type d'absence, en fait.
Donc que vous vivez au quotidien?
Oui. Okay. Elle est prise en charge aussi à l'IME de Flavigny, que j'embrasse tout particulièrement parce qu'ils sont hyper bienveillants par rapport aux enfants. Puis il y a un petit aussi pour le COSÉ qui l'a pris en charge au tout début, le centre ressources pour les épilepsies aussi.
Alors votre vie change, hein, du jour où effectivement, j'imagine déjà dès la tumeur et ensuite effectivement dès qu'on découvre les épilepsies. Comment vous le vivez tout de suite? J'imagine qu'au début on se rend même peut-être pas forcément compte.
Non, parce qu'on est dans les starting blocks, donc déjà pour les chimio, et puis par la suite aussi maintenant l'errance médicale parce que elle est pharmacorésistante, donc on ne trouve pas de traitement, et toujours sur le qui-vive entre les absences, les ruptures de contact, mais aussi je voudrais remercier aussi mon mari Stéphane qui est là aussi pour pallier aux nuits, parce que je travaille de nuit. Et mes enfants, les deux grands, Lise et Nicolas, qui aussi, eux trois, sont aidants aussi.
Oui, c'est ça. On oublie souvent, c'est bien ce que vous dites, Claire, je rebondis et je me tourne vers Camille, mais c'est vrai qu'on parle souvent des parents, on oublie un peu les frères et sœurs parfois.
Oui, effectivement. Alors, le constat des jeunes aidants en France, en tout cas à l'heure actuelle, on estime qu'il y a en France 500 000 jeunes aidants, tout en étant bien conscient que c'est forcément sous-évalué, mais comme le nombre d'aidants adultes aujourd'hui, puisqu'il y a cet écueil-là de se reconnaître comme tel, de se déclarer comme aidant, d'en avoir conscience. Et alors, chez les jeunes, c'est encore vraiment particulier parce que ils le disent pas pas forcément à leurs camarades par peur de moquerie, parce que c'est pas forcément facile aussi de dire bah non, bah moi je vais pas au City Stade parce que je rentre m'occuper de mon frère ou de ma sœur qui est en situation de handicap. Voilà, ça peut être stigmatisant, mais en fait j'ai envie de dire comme un adulte dans le milieu professionnel, hein, ouais. Quelque part.
Alors justement, le milieu professionnel, vous travailliez
Oui, je travaille de nuit à l'hôpital.
Et donc, quand c'est arrivé, vous travailliez déjà à ce moment-là?
Oui. Ben, j'ai dû m'arrêter totalement pendant plusieurs mois. J'avais repris et puis après, ben, l'épilepsie est apparue. Donc, j'ai dû m'arrêter totalement de nouveau, ouais. Pour passer après à un 50% et maintenant 80% de nuit. Voilà.
Et vous travaillez à l'époque de nuit ou de jour ou comment
Ben, depuis la maladie de Pauline, c'est de nuit en fait.
C'est ça. Hein,
parce que ça.
Mais
ça, c'est,
avant, vous aviez un travail qui était plutôt quoi
J'étais aide-soignante, mais de jour.
De jour, c'est ça.
Oui.
Et donc, d'un seul coup, la vie bascule. C'est-à-dire qu'effectivement, oui. Vous êtes obligé aussi de vous adapter dans votre vie professionnelle.
Oui. C'est parfois pas évident de se reposer. Mais j'arrive quand même à faire la différence entre travail et maison. J'ai cette rupture, en fait, quand je prends ma voiture du travail, que je rentre chez moi, et inversement aussi. Voilà.
Et alors, au travail, pendant que vous êtes au travail, c'est votre mari qui est à la maison et qui s'occupe de Pauline, enfin, en tout cas, qui est là pour surveiller, accompagner.
Oui.
C'est un moment où vous arrivez aussi un peu à lâcher la pression, ou vous êtes toujours avec...
J'arrive à lâcher la pression grâce à mes superbes collègues.
C'est bien, on les salue,
l'hôpital. Hein.
Et j'en profite pour vous remercier, vous d'être là ce matin à 10h30, alors que vous travaillez de nuit quand même.
Oui. Bon, pas la nuit dernière hein, quand
bon,
même,
ça va.
Faut pas abuser.
Donc oui, vous arrivez du coup quand même à évacuer, c'est un moment où vous arrivez un peu à vous libérer.
Oui. Bon,
parce qu'on entendait tout à l'heure dans le micro-trottoir quelqu'un qui disait il faut être à 100% dans le travail. Il y a un peu aussi cette injonction de se dire, quand on est au travail, on a presque plus le droit d'être aidant. En tout cas, moi, c'est ce que j'entendais tout à l'heure.
Ça fait du bien aussi, quelque part, de penser à autre chose, même si c'est aussi, pour
bien
ma
sûr.
Part, soigner des autres. Mais c'est différent parce que c'est pas sa famille, en fait. Donc on arrive à faire cette distance. Voilà.
Et alors, il y a le travail, puis il y a la vie sociale.
Oui.
Comment ça se passe dans votre vie sociale aujourd'hui?
La vie sociale, j'ai plusieurs amis, je fais des sorties, c'est pas évident, ça fait pas longtemps que je fais une activité sportive, j'aimerais bien faire plein de choses, mais le souci de cette maladie, c'est que ça peut être du jour au lendemain et c'est très énergivore en fait.
Ouais.
Et en fait, les moments où on pourrait faire quelque chose, j'apprécie particulièrement me reposer en fait.
Oui, je veux bien croire. Mais vous avez quand même trouver des ressources pour aller effectivement développer des activités.
Mais il a fallu du temps quand même, de nombreuses années.
Quel âge a votre fille aujourd'hui?
Elle a 14 ans.
Elle a 14 ans.
Oui.
Et donc combien de temps il vous a fallu pour aller? Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi un petit peu ce que vous avez mis en place.
Oui, d'accord.
Ce que j'ai envie aussi de voir avec vous ce matin, et ce que j'entends dans votre parcours, c'est que vous avez mis en place des choses aussi pour continuer de vivre et d'exister. Camille disait tout à l'heure, c'est important d'avoir ce moment de répit aussi.
Oui. J'ai aussi à côté, je fais de l'hypnose aussi. On parlait du suivi, effectivement il est là pour moi de toute façon, parce qu'autrement on pourrait pas tenir physiquement quoi, en fait, et moralement en fait, l'activité sportive j'aurais pas pensé que ça me donnait un bien fou tel que ça en fait, tout particulièrement aussi bientôt la maison des aidants va faire de l'art thérapie, donc ça me plairait bien par rapport à tout ce qui est artistique. J'aime bien tout ce qui est écriture, lecture,
Donc Camille, vous avez déjà une inscrite là.
Oui, c'est ça.
Il faut lancer l'activité rapidement à la maison des aidants.
Mais c'est pas évident de se donner le droit, en fait, d'avoir le droit.
Mais ça, c'est une vraie question, je crois qu'on l'entend souvent, c'est se donner le droit de pouvoir faire quelque chose. Je vais prendre un tout petit peu la parole pour parler de quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps de la part d'aidants, et notamment d'un monsieur qui me parlait de son épouse et qui me dit, elle a du mal à s'autoriser de vivre en dehors de l'aidance.
Oui, c'est parfois pas évident parce qu'on est vite, à chaque absence ou chaque crise, on est vite remis... on a tout en pleine face, quoi, en fait, à chaque fois. Et c'est des paliers, des montagnes russes, en fait.
Ouais.
Des fois, par exemple, j'ai pas envie d'aller au sport, mais je me dis, allez, Claire, vas-y... vas-y, tu dois y aller. Enfin, voilà. Mais c'est pas évident par rapport à la fatigue, par rapport au travail, voilà. Ou pas, hein, parce que c'est pas parce qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas qu'on n'est pas forcément fatigué. Hein. Mmh. Ça n'a rien à voir, hein, parce que j'ai eu des ruptures aussi professionnelles et c'était même plus fatigant d'être là 24 heures sur 24, en fait.
Ouais. Voilà. Ouais. On sent, hein, Camille, je me retourne à nouveau vers vous, mais ce besoin de pouvoir sortir à un moment donné du cercle.
Mais oui, effectivement, parce qu'en plus, c'est les danses induisent une relation de couple, alors avec avec la personne que l'on aide, et puis un épuisement, de la fatigue. Potentiellement aussi de l'agacement, ou à un moment donné, c'est difficile aussi relationnellement avec son proche, mais ça peut être aussi difficile pour la personne qui est aidée. Voilà, et donc c'est très important de pouvoir essayer de s'aménager des moments pour soi dans ces circonstances-là. Après, ce n'est pas toujours possible, notamment dans le cas de familles monoparentales aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, ou avec peu de relais familial parce que la personne n'habite pas dans la famille est hors région. Donc, c'est vrai que oui, c'est compliqué. Mais c'est très important.
Ouais, c'est important.
Je voulais aussi parler, tout à l'heure on parlait des frères et sœurs,
oui.
Et du coup je tiens quand même un point par rapport à eux, c'est de leur dire qu'eux aussi ils ont leur vie, et que je ne veux pas qu'ils soient aidants, enfin ils sont aidants pour leur sœur, mais plus tard ils ont leur vie aussi à construire, et que Pauline, ce sera peut-être pas une vie comme tout le monde peut avoir, mais elle aura sa vie, et voilà, à respecter autant que la leur, en fait. Voilà.
Oui, c'est important ce que vous dites, Camille. Vous, par rapport à ça, justement, il faut permettre aux parents d'accepter que les enfants soient pas forcément des aidants, ce que dit Claire.
Oui, tout à fait, parce que quand l'enfant va grandir, forcément, il va s'autonomiser à sa manière, et puis il va peut-être y avoir besoin qu'il y ait d'autres intervenants aussi auprès de l'enfant. Et ça, c'est un parcours qui est très long, parce que ça veut dire qu'on confie son proche à quelqu'un qu'on ne connaît pas, dans un contexte sur lequel on n'a pas de vision à 360 constamment, etc. Et c'est vrai que plus tôt on peut avoir fait ce chemin-là et cette réflexion-là, plus ça va être confortable pour tout le monde. Voilà, après, on fait comme on peut.
Je vais jeter un petit pavé dans l'eau. Au niveau de l'école, ça se passe comment, là? Comment, pas que l'école, d'ailleurs, la sociabilisation, est-ce qu'on arrive facilement aujourd'hui à faire accepter aussi la vie qu'on a avec son proche qu'on aide? Je le dis parce que j'ai entendu des témoignages où on me dit la vie sociale, elle est devenue très difficile. On a des amis qu'on voit moins. On a des lieux où on peut plus aller. Comment vous le vivez, vous, Claire ?
On est parfois tellement dans les starting blocks que forcément, la sphère autour est parfois pas présente ou peu présente. Après, il y a peut-être des gens aussi qui ont peur, quoi. Mmh. Mais bon, moi, j'ai quand même un cercle d'amis qui est assez important, où je parle de choses. Voilà, et puis la famille aussi, du coup. De là, c'est parfois compliqué, oui, c'est vrai. Mmh. C'est vrai que c'est compliqué par rapport à ça.
On va dans un instant découvrir le parcours de Cathy également. Vous allez nous raconter aussi un petit peu. On va essayer de comprendre et de voir quelle vie vous avez, vous aussi. Comment vous vivez les choses, parce que c'est important de le voir et de le sentir. Je vous propose juste peut-être qu'on écoute Yann's. Je crois que c'est vous, Claire, qui avez choisi ce son de Yann's. Alors pourquoi
Pour tout vous dire, le secret, c'est le chanteur préféré de Pauline. je lance un appel. Elle souhaiterait le rencontrer, si c'était possible. Elle va à ses concerts. Merci à vous, Yann.
En tout cas, Claire, vous avez une super énergie positive. On vous remercie de nous la partager ce matin. Je vous propose qu'on écoute Yann. Le morceau que vous avez choisi,
c'est Jordana. Voilà.
Et bien, écoute Jordana de Yann maintenant sur RCN.
Ah. Le jour où tu es né, j'ai de suite compris que t'apporterais le soleil les jours de pluie. Le jour où je t'ai bercé, j'ai de suite compris que je t'aimerais comme un fou à la folie. Je t'offrirai des diamants pour que tu brilles dans le noir. Je te confierai mes secrets, t'auras le droit de tout savoir. Et quand j'irai là-haut, ça sera pour mieux te voir. Si tu connais la défaite, dis-toi que t'aimes ma victoire. Quand t'es pas là, tu me manques. Avec toi, je retombe en enfance. Appelle-moi, j'ai besoin de t'entendre. Dis-moi à quoi tu penses. Jordana, c'est nous deux contre les autres. Oui, cette histoire c'est la nôtre. T'auras le droit de faire des fautes, me mettre en colère, Jordana. Je te porterai sur toi du monde. Je te relèverai si tu tombes. Car si tu pleures, je m'effondre. Non, ne pleure pas, Jordana. Nanana. Des fois tu te lèves dans ta nuit le soir. Et si parfois dans tes rêves tu fais des cauchemars, dis-toi que du royaume t'es reine et le roi jamais ne part. N'en aie pas peur, je suis là. Je t'offrirai des diamants pour que tu brilles dans le noir. Je te confierai mes secrets, t'auras le droit de tout savoir. Et quand j'irai là-haut, ça sera pour mieux te voir. Si tu connais la défaite, dis-toi que t'aimes ma victoire. Quand t'es pas là, tu me manques. Avec toi, je retombe en enfance. Appelle-moi, j'ai besoin de t'entendre. Dis-moi à quoi tu penses, oh Jordana. Nanana. Nanana, nanana, oh Jordana. Nanana. Non, ne pleure pas, Jordana, mon Jordana. C'est nous deux contre les autres. Oui, cette histoire, c'est la nôtre. T'auras le droit de faire des fautes. Me mettre en colère, Jordana. Je te porterai sur toi du monde. Je te relèverai si tu tombes. Je m'effondre, non, ne pleure pas, Jordana.
Je t'aime, mon papa d'amour.
Non, ne pleure pas, je suis là.
10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout.
Voilà, on tousse un peu dans ce studio. Bienvenue, on est en direct jusqu'à 11h. Et je rappelle qu'on est dans Épicer tout, l'émission qui traite des épilepsies. Et ce matin, plus particulièrement, on avait envie de parler du rôle et de la place des aidants. Cathy, alors vous êtes donc la maman d'Élodie. Élodie, d'ailleurs, qui est pas très loin de ce studio, oui. Qui est venue avec sa sœur également. C'est racontez-nous, c'est quoi votre vie? Comment vous allez, vous, Cathy?
Bon, écoutez, on va dire que je vais bien.
Ouais.
On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi, j'ai envie de dire qu'on va bien. Vous allez bien, ouais.
On n'a pas le choix. C'est-à-dire que vous vous imposez, quoi qu'il arrive, d'aller bien.
Oui, je suis obligée. Mmh. Oui. Ah ouais. Il y a des fois où on a envie de dire non, on ne va pas bien. Mais on va dire, c'est un peu... Enfin, je m'interdis un petit peu. Et puis, j'aime bien être aussi dans le contrôle.
Mmh.
Dans le contrôle. Surtout le contrôle. Pas l'action.
Ouais, le contrôle.
Le contrôle. Mmh.
Ouais. Comment vous faites pour que ça aille toujours bien, du coup? Vous mettez quoi
alors,
en place?
Alors, j'ai la chance un peu pareil pour d'avoir mon mari, heureusement, ouais. Qui est là pour m'aider. Ma famille aussi. Je peux en parler avec eux, il n'y a pas de souci. Mmh. Donc, c'est ça qui fait beaucoup, j'ai envie de dire. Ouais.
Votre fille va avoir 22 ans.
Oui, demain.
C'est ça demain.
Oui, oui.
Belle anniversaire à elle d'avance.
Merci. Oui, bel anniversaire. Je vous remercie, ma nénette.
Alors, pareil, je vais vous demander, vous, comment vous êtes devenue aidante?
Alors là, c'était un peu compliqué. Enfin, je connaissais pas ce rôle de proche aidant pour une jeune fille. Moi, je pensais tout le temps comme quoi le proche aidant, c'était pour une personne justement en fin de vie ou à un certain âge et qui était très, très malade, voilà, en fin de vie. Je ne connaissais pas jusqu'à ce que, voilà, on me donne un peu toutes ces lois. Mmh. Et me dire, bah, ça y est, vous êtes proche aidant, vous avez le droit à ce statut d'aidant familial. Donc, c'est comme ça.
Ça, on vous l'a dit, ça. C'est-à-dire qu'un jour, on vous a dit, maintenant, vous êtes proche aidante.
Oui, oui, oui. C'est par rapport à. C'est la MDPH. Quand on a fait un peu des petites réunions, le statut aussi pour continuer l'école. parce qu'Élodie, elle a 22 ans, donc elle était aussi au COCE à Flavigny. Mmh. Nous, on n'est pas de Nancy.
Vous voulez bien juste qu'on précise ce qu'est le COCE pour nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas?
C'est à l'OHS à Flavigny-sur-Moselle. Oui. Donc, c'est un centre aussi spécial pour les épileptiques.
D'accord.
Donc, elle y était pendant 3 ans et ça nous a vraiment aidés. J'ai adoré ce centre. Mmh. Alors, tout au début, j'avais très peur. J'avais le sentiment d'abandon. D'abandonner ma fille. Ah, j'étais limite en dépression.
Ouais.
Et en fin de compte, c'était ses plus belles années. Ses plus belles années. Et ensuite, on n'a pas pu continuer parce que la maladie d'Élodie est super compliquée. Mmh. C'est un syndrome de West qu'elle a eu, étant petite.
Qui implique quoi?
Pardon?
Qui implique quoi?
Donc, elle a une épilepsie rare, sévère, pharmacorésistante. Mmh. C'est super compliqué parce qu'on est toujours à la recherche de traitements. Mmh. On a dû lui poser aussi un stimulateur au nerf vague.
D'accord.
Donc c'est en lien aussi pas pour essayer les traitements. Mmh. Là, on a encore essayé un nouveau traitement. On a la chance d'avoir une équipe de spécialistes, la neurologue qui est géniale, qui la suit, qui nous lâche pas quoi. C'est génial, quoi. Et donc, c'est ça, son parcours qui est super compliqué.
Donc, vous vivez avec ce parcours du quotidien. On entend que vous nous dites, je m'oblige à aller bien.
Oui. Oui.
J'ai l'impression que quand on s'oblige, ça veut dire qu'il y a quand même des fois où c'est un peu plus difficile.
Bah, oui, c'est difficile, surtout quand elle est en crise.
En crise, oui.
En crise. Après, Élodie est tout le temps en crise. C'est difficile à le faire comprendre aussi parce que ça se voit pas une épilepsie. Donc on s'est dit mais non, regarde, elle est bien. Non, elle a fait une crise juste avant, voilà quoi. Donc c'est super compliqué et on est toujours à l'affût.
Alors c'est ça, vous gérez toujours avec vous gérez votre vie avec toujours ce truc de vous dire là maintenant ou tout de suite, il peut se passer quelque chose.
Il peut se passer quelque chose, voilà. Mmh. Voilà, même si c'est écrit, ça peut être que des absences, mais on a quand même toujours cette peur que ça soit plus grave. Mmh. Donc on a toujours cette peur et je suis toujours là aux aguets, on va dire.
Alors, vous avez votre mari, ça vous aide. Ouais. Vous avez de la famille, ça vous aide. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place pour continuer à aller bien, comme vous dites?
Un peu, alors la marche.
Ouais.
J'aime bien la marche, ouais. Après, c'est vrai que le travail, moi aussi, là, j'ai dû arrêter aussi parce qu'Élodie a eu aussi des troubles psychogènes il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans. Donc ça a été compliqué, j'ai dû arrêter mon travail aussi, donc pour m'occuper d'elle encore plus. C'est super compliqué à faire comprendre aussi ces troubles psychogènes. Il y en a encore un petit peu, donc c'est ça qu'il faut gérer. Gérer. Donc là, je suis à la recherche d'un travail qui...
Écoutez, on a passé un message, on a demandé à Yann de venir rencontrer il y a quelques
temps. Si Yann
pouvait
faire ça, merci Yann.
Pourquoi pas?
Peut-être dans son équipe. Écoutez, on va lancer l'appel. C'est quoi, dans quel domaine vous souhaitez travailler?
Alors moi, j'ai fait plusieurs domaines. Là, le dernier en date, c'est je suis dans la vente.
D'accord.
J'étais vendeuse en prêt-à-porter.
Okay.
J'adore ce métier. Je peux comprendre, c'est super compliqué parce que les horaires. Ça aussi, il faut toujours être à l'affût. Et on m'a déjà appelé sur mon lieu de travail. Vite, il faut que tu rentres. Elle a fait une crise assez grave. Donc, assez, pas grave, mais importante. D'où je dois quitter mon travail. Faites comprendre ça aux collègues.
Je vais vous demander, comment on gère ça? Comment on gère ça avec un employeur, avec des collègues?
C'est très dur. C'est dur à faire comprendre parce qu'au début, on est toujours obligé déjà, je ne le cache pas, je ne peux pas le cacher.
C'est une question que j'allais poser à Camille, le maire de la Maison des Aidants, justement. Alors peut-être que vous n'êtes pas compétente à y répondre, mais est-ce que quand on est proche aidant, on doit dire au moment où on recherche un emploi, par exemple, je vous préviens, je suis proche aidant?
Alors, est-ce qu'on doit le dire? Je ne sais pas. Je crois qu'il faut faire ce qu'on pense être le mieux. En tout cas, pour les aidants qui sont en poste et en emploi, ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Parce qu'en fait, c'est le regard de la société, en fait, par rapport à cette situation-là qui est lourd. On va avoir des entreprises qui vont être très ouvertes à la question et qui vont avoir mis en place des dispositions au niveau de leurs accords d'entreprise spécifiquement pour les aidants, comme des congés supplémentaires, des aides financières en cas de grosses problématiques. Donc là, on sait qu'on a une direction, qu'on a une entreprise qui s'engage pour ses salariés aidants. donc c'est peut-être plus simple d'aller voir sa direction et d'en parler de manière spontanée. Après, il y a des entreprises qui ne mettent pas... Alors, c'est beaucoup plus simple quand même, on va pas se le cacher, dans les grands groupes ou dans les grandes entreprises, de mettre ce genre de disposition en place. Dans les petites entreprises familiales, etc., c'est hyper compliqué parce que...
Il faut gérer des absences.
Ouais, voilà, c'est ça. Après, on a aussi... des situations où là par contre, enfin par rapport aux équipes de travail, c'est toujours compliqué parce que je pense que quand on est aidant, on n'a que deux choix quoi. C'est soit on ne dit rien et puis effectivement il y a des fois on arrive en retard, on est obligé de prendre son congé en dernière minute, on s'absente en pleine journée, etc. Soit on le dit. Mais peut-on se contenter simplement de dire « je suis aidant d'un proche » On va se sentir obligé de se justifier d'expliquer pourquoi on vit ça. Donc dans les deux cas, c'est une position qui est inconfortable. Dans un cas, on ne dit rien et puis après, ça ouvre la porte à plein de supputations. Telle personne n'a pas envie de travailler ou on ne sait pas trop ce qu'il va faire, etc. Et puis dans d'autres cas, on est obligé de se dévoiler, de parler de l'intime et c'est pas confortable non plus parce qu'on n'est pas obligé de partager sa vie personnelle avec ses collègues ou son équipe de travail.
Donc Cathy, vous faites le choix, vous, d'en parler?
Oui, parce que je suis pour moi un peu obligée, sachant qu'en plus Élodie va régulièrement à l'hôpital pour son suivi. Comme je vous ai dit, elle est pharmacorésistante. On est à la recherche du traitement.
Du
traitement, donc elle y va régulièrement, même plus qu'avant. Là, on arrive à espacer à 1-2 mois.
Oui.
Mais là, on y retourne lundi prochain.
Ouais.
Donc, et sur Nancy. Alors, en plus, nous, on n'habite pas sur Nancy. On a quand même des kilomètres à faire. Donc, après, il faut prendre le temps de la consultation. Et donc, il faut faire comprendre ça aussi. Donc, je ne peux pas me dire « Non, tout va bien. Moi, je peux travailler tout le temps. Il n'y a pas de problème. » Non, c'est pas vrai. Je vais pas mentir parce qu'après je me dis que je mets aussi mon équipe un peu dans la panade quoi. Et je peux partir aussi à n'importe quel moment. Donc je préfère dire la vérité. Je vois que pour rechercher du travail c'est super dur parce que je pense que les employeurs se disent on pourra pas compter sur cette personne. Moi j'ai besoin de recruter. Je peux le comprendre. Mais on a notre vie derrière et moi c'est ma fille quoi, c'est sa santé, c'est sa santé en priorité.
Vous êtes des aidants pleines de ressources, je trouve, Camille. J'ai en face de moi deux femmes que j'admire beaucoup. Je vous remercie de la confiance que vous nous apportez, mais je trouve admirable parce que on sent que vous mettez une énergie folle et que en même temps vous prenez la vie du beau côté et je trouve ça très touchant. Je voulais vous le dire.
Il faut pour avancer.
Ouais, mais c'est chouette. C'est pas toujours facile, Camille,
de
pouvoir mettre cette énergie-là.
Non, alors moi, j'ai cette même admiration à chaque personne que je rencontre. Et puis aussi ce respect, parce que effectivement, c'est pas simple. Et puis même dans des grands moments d'abattement où les personnes ont l'impression qu'elles n'ont pas de ressources, qu'elles n'ont plus de ressources, en fait, elles sont quand même. Pleine de vie, pleine de ressources. Elles ont juste besoin d'être, d'avoir un coup de pouce parce que des fois, on a besoin de l'autre, on a besoin d'un collectif, on a besoin d'un coup de main, d'une aide particulière pour rebondir. Mais globalement, un aidant qui vient nous voir, il vient nous voir pour trouver des solutions. Il vient pas nous voir pour dire je veux que tout s'arrête et que même s'il y en a qui effectivement sont très en détresse sur ce plan-là, mais effectivement, c'est. Puis je pense que comme ça a été dit, il n'y a pas le choix, il faut avancer. On a une vie de famille, on a aussi potentiellement d'autres enfants, un mari, etc. Et voilà.
Merci en tout cas Camille Le Maire d'être venue nous voir ce matin. Merci Claire et Cathy pour la confiance que vous nous avez apportée. Je voudrais finir peut-être sur quelques questions rapides, vrai-faux, et puis on donnera l'actualité et les ressources rapidement. Je vous pose quelques questions, on répond très rapidement sur vrai-faux, d'accord ? Les proches aidants de personnes épileptiques peuvent éprouver du stress émotionnel significatif en raison de l'incertitude et de la nature imprévisible des crises d'épilepsie.
C'est vrai, oui.
On est d'accord. Les proches aidants peuvent être confrontés à des défis financiers en raison des coûts associés aux soins médicaux, aux médicaments et aux équipements nécessaires pour prendre soin de la personne épileptique.
Oui.
Ok. Les proches aidants peuvent ressentir un sentiment d'isolement social, car leurs responsabilités de soins peuvent limiter leur capacité à participer à des activités sociales ou à maintenir des relations sociales ou de travail d'ailleurs.
Oui, aussi.
On l'a bien entendu. Tous les proches aidants de personnes épileptiques développent inévitablement des problèmes de santé mentale comme la dépression.
C'est un peu trop catégorique peut-être.
Voilà. Et puis j'ai pas l'impression. Vous voyez, justement, je crois qu'on a eu deux témoignages qui nous montrent l'énergie qu'on peut développer. Les proches aidants ne ressentent généralement pas de stress supplémentaire lié à la gestion des médicaments et des traitements pour les personnes épileptiques.
Moi, je le fais plus. C'est mon mari. Chacun son rôle.
Très bonne astuce.
Non, c'est moi qui le fais, ça.
Les proches aidants ne sont pas exposés à des risques accrus de troubles émotionnels ou mentaux par rapport à la population générale.
Les
aidants sont de toute façon plus à risque.
Mais oui, plus fragiles, on le sait. Il y a beaucoup plus. Donc, il faut être bien accompagné. Merci encore à vous deux pour la confiance que vous nous avez accordée. On était ravis de vous avoir dans cette émission. Les ressources, rapidement, Audrey, Aurore.
Je vais juste en profiter, juste qu'on m'en a posé la question du COCE pour dire ce que c'est et plus précisément. Donc, c'est le Centre d'observation et de cure pour enfants épileptiques qui est effectivement porté par l'OHS et qui est un établissement de santé, donc pas médico-social.
C'est très important. Les ressources, vers quoi on peut se tourner, on les mettra en lien dans la vidéo YouTube que vous retrouverez dans quelques heures sur notre chaîne YouTube RCN Nancy.
Oui, alors on va retrouver des ressources proposées par France Asso Santé Grand Est au niveau local. Également des associations comme JAD, la Pousse Brindille ou l'association de France des aidants. Il y a des guides, des fiches thématiques, etc. Et il y a récemment eu un podcast par Les Pieds sur Terre sur la génération sandwich.
Que vous allez pouvoir retrouver. On va vous mettre le lien très prochainement sur notre chaîne YouTube. Et puis un dernier appel.
Pour les prochaines émissions.
Oui, pour les prochaines émissions.
Donc la prochaine émission du 14 mai traitera de l'épilepsie et des loisirs. Oui. Est-ce qu'on peut aller en boîte de nuit, à la foire,
en ce moment, par exemple.
Faire du manège. Et puis la prochaine, la suivante sera sur l'épilepsie et la parentalité le 11 juin. Et là, on lance un appel à témoins. Si des personnes, des jeunes mamans, des jeunes papas ou moins jeunes, mais qui voudraient se rappeler de cette période, est-ce que je suis épileptique, est-ce que je peux devenir parent, et qu'ils souhaitent témoigner, ils peuvent faire appel à nous via l'adresse mail,
témoin@rcn-radio.org.
Voilà, témoin au pluriel.
Témoin au pluriel, merci Audrey, merci Aurore. Et puis dernier appel, je rappelle que Cathy recherche du travail dans la vente. Dans quel secteur géographique?
Saint-Avold-Metz,
donc vous êtes recruteur, vous avez envie de, de permettre à Cathy d'avoir un emploi, appelez-nous, vous pouvez le faire. Et puis Claire aussi, on rappelle que Yanns, si Yanns nous écoute, Pauline serait ravie de le rencontrer.
Ah oui, encore une fois.
Le message est passé.
On va à tous ses concerts, alors il faut bien avoir ça quand même.
Merci à vous toutes et vous tous, on va se quitter. On se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode et tout. On vous souhaite à tous une belle journée sur RCN et à bientôt.
Merci, au revoir.